Donc bonjour, donc, je voulais vous parler de l'Open Data Toulousain, donc vous faire un peu un point d'étape et puis un retour sur ce qui s'est passé depuis 3 ans et sur ce que nous envisageons pour la suite. Donc je ne sais pas à quel point vous êtes informé sur ce que c'est que l'Open Data, donc je vais partir du principe que vous ne savez pas trop et puis c'est pas grave, hein, ça fera de la révision pour ceux qui sont déjà bien informés. Donc d'abord, l'open data, c'est quoi? C'est quoi une data? On appelle ça, donc c'est un peu un mix d'anglicisme et de latinisme, hein, data, données, donc ça marche aussi bien en anglais qu'en latin. Donc qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée, eh bien, ce sont par exemple des effectifs. Combien il y a d'enfants dans une école? Ça, c'est une donnée. Combien il y a d'agents municipaux? C'est aussi une autre donnée. Ça peut être des horaires, donc les horaires de bus, des horaires de tram, donc soit les horaires théoriques, ou aussi les horaires en temps réel. Donc, tout ça, ce sont des informations, donc des données. C'est aussi le patrimoine de la ville, de la collectivité, de l'organisation. Donc en termes de patrimoine, eh bien, on a des bâtiments, on a des arbres, on a des équipements sportifs, on a des points lumineux, on a des fontaines dans les rues, on a des bancs publics, on a tout un tas de choses. Et tout ça, ce sont des données. Et ce sont aussi des éléments qui sont liés à l'exploitation de la collectivité, de l'organisation. Donc c'est les livres qui sont empruntés dans la bibliothèque, donc quels sont les 1000 titres les plus empruntés. Donc ça, c'est une information qu'on publie. Ce sont le budget et le compte administratif. Donc le budget, c'est ce que la collectivité prévoit de dépenser pour l'année à venir. Et le compte administratif, eh bien, c'est ce qu'elle a effectivement dépensé dans l'année écoulée. Voilà, donc le budget, c'est un élément prévisionnel, et compte administratif, c'est un élément qui revoit sur ce qui s'est effectivement passé. Et puis c'est aussi le reflet de la vie locale, donc par exemple le nombre de mariages, le nombre de naissances, le nombre de décès, les résultats des élections, les prénoms qui sont donnés aux enfants qui sont nés dans les maternités de Toulouse, voilà, etc., ou l'agenda culturel. Tout ça, ce sont des données. Alors, dans Open Data, donc il y a data, mais il y a aussi open, l'ouverture. Donc qu'est-ce que c'est que l'ouverture? Mais l'ouverture, c'est finalement c'est assez simple, c'est permettre et donner la possibilité à tout le monde d'avoir accès à ces informations et de pouvoir les réutiliser. Donc ça veut dire que d'abord les données, elles sont exposées, elles sont mises à disposition, et puis on donne la possibilité de les récupérer, de les télécharger de façon tout à fait facile et libre. Et puis c'est évidemment, c'est autorisé, et même un peu plus qu'autorisé, c'est aussi encourager la réutilisation de ces informations. Donc l'ouverture des données publiques, maintenant que j'ai refait le point sur qu'est-ce que c'était qu'une donnée, qu'est-ce que c'était que l'ouverture, l'ouverture des données publiques, eh bien, on constate tout simplement que les collectivités, les administrations, mais les entreprises aussi, hein, mais elles sont un peu moins concernées à ce stade, en tout cas elles se sentent pas concernées encore à ce stade, on produit des données, on en collecte, on en a besoin pour exercer nos missions tout simplement, hein, pour savoir quand il faut ramasser les poubelles, eh bien, il faut connaître exactement le tracé des rues, le sens de circulation, savoir combien il y a de logements pour arriver à prévoir les tracés et les tournées des camions poubelles. Et puis une fois qu'on a prévu les ramassages de poubelles, eh bien, à la fin, on constate qu'on a ramassé X tonnage de déchets. Donc ça aussi, c'est un élément, c'est un reflet de ce qui s'est passé dans la ville. Donc les collectivités, donc, on génère tout un tas d'informations, tout un tas de données, qui ne nous appartiennent pas exclusivement. En fait, jusqu'à présent, on disait, on imaginait qu'on était propriétaire de ces informations. Mais plus que propriétaire, on en est surtout producteur. Donc c'est ça un petit peu la nuance et la chose qui change par rapport au producteur de données, c'est qu'on passe d'un statut de propriétaire de données à un statut de producteur de données. Donc si un producteur, ça veut dire que quelque part, il y aura aussi un réutilisateur. L'enjeu de tout ça, eh bien, c'est mettre à disposition ces informations à la disposition de tout le monde. Voilà. Alors, précisant quand même que c'est les données qui ne sont pas protégées par un texte spécifique. Donc là, je reviendrai un petit peu là-dessus. Il y a parfois des fantasmes qui se font sur dire, voilà, l'open data, c'est la mise en pâture de tout le monde des informations concernant les individus. C'est pas du tout ça. Quand on ouvre les informations sur le nombre d'arbres qui a planté au bord du canal du Midi, je vous défie de trouver une information qui concerne une personne physique là-dessus. En revanche, c'est quand même toujours intéressant de savoir combien il y a d'arbres au bord du canal du Midi, est-ce que ce sont des platanes ou pas, ou d'autres essences, bon, etc. L'enjeu, c'est que ça concerne, à ce stade, les administrations publiques, les entreprises privées qui exercent une mission de service public. Aujourd'hui, ceux qui ouvrent leurs données, ce sont les administrations centrales, donc les ministères, les collectivités, les entreprises donc, qui exercent une mission de service public, la SNCF par exemple, hein, tout simplement. Ils ont aussi, ils sont lancés dans l'open data assez récemment. Et puis des établissements publics type TCO, donc les opérateurs de transport, eux aussi ouvrent leurs données. Donc qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Parce que bon, ouvrir la donnée c'est bien gentil, mais pourquoi on le fait? Donc on le fait. Oula, si je fais tomber le micro. Donc on le fait, cette ouverture des données pour trois principales missions qui sont la transparence administrative. Donc voilà, donc c'est simplement pour qu'il y ait une nouvelle relation qui se fasse entre la collectivité, pour nous, hein, en ce qui nous concerne, et le citoyen. Donc c'est vraiment un enjeu de transparence administrative pour que les gens puissent s'approprier et puissent voir ce qui se fait exactement dans la collectivité, dans l'administration. C'est vraiment un élément, un enjeu de nouvelles relations. Donc on peut parler maintenant, on commence à parler de démocratie 3.0. Donc c'est vraiment, c'est l'interaction entre l'administration et puis les citoyens. Une opportunité de développement économique, bien sûr, hein, ça c'est un élément qui est tout à fait important. C'est offrir aux développeurs des sources de qualité pour pouvoir bâtir ensuite des services qui sont utiles à tout le monde, des services utiles à la population. Pour vous donner un exemple, quand on parle de l'accessibilité dans les bâtiments publics, donc l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, le rôle de la collectivité, c'est de prévoir cette accessibilité, donc mettre en place des rampes d'accès, des ascenseurs, etc., pour que les gens puissent se déplacer facilement pour accéder aux bâtiments et à l'intérieur des bâtiments. Bon. Le rôle de la collectivité, sa mission, grosso modo, elle s'arrête là. Et pour autant, ces informations, on en dispose, et si on les met à disposition d'autres, eh bien, il y a des associations de handicapés, et ça s'est fait sur des villes comme Rennes et Montpellier, qui se sont emparées de ces informations et qui ont mis en place une application qui facilite la vie aux personnes à mobilité réduite en leur disant, voilà, pour aller d'un point A à un point B, quel est le meilleur trajet, le trajet le plus accessible. Voilà. Faire cette application, ce n'est pas dans les missions de la collectivité. En revanche, donner les informations qui nous appartiennent, parce que nous, on a rempli notre mission qui est de rendre les bâtiments accessibles, mais les donner en libre accessibilité à qui le voudra, là, ça permet justement de faciliter la vie et de faciliter la vie des personnes concernées, et puis, accessoirement, peut-être de favoriser le développement économique. Et puis, ça a aussi un intérêt, bien sûr, pour les chercheurs, pour les enseignants également, de pouvoir disposer de ces informations, mais pour faire leurs recherches aussi, ou en support pédagogique. Je sais qu'il y a des enseignants de Paul Sabatier qui utilisent ces informations bien, pour leurs étudiants, pour les faire travailler sur des vraies données, plutôt que de partir sur des éléments fictifs. C'est quand même toujours plus intéressant et plus marrant de travailler sur du vrai, quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça nous apporte. Alors, évidemment, tout ça, c'est pas sorti non plus de nulle part et puis d'une tête de quelqu'un qui s'est dit « ouais, si on ouvrait les données ». Il y a quand même des obligations légales. Alors, on remonte loin, hein, quand on parle de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Évidemment, à l'époque, il ne s'est pas posé pas trop la question de l'open data, bien sûr. Hein, donc, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Là, en l'occurrence, initialement, c'était quand même plus à l'encontre des fermiers généraux qui collectaient les impôts, donc pour savoir ce qu'ils en faisaient. Donc ça, c'est la grande devise de la Cour des comptes. Hein, donc la grande salle de conférence de la Cour des comptes, vous avez donc l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. Néanmoins, à partir de là, on a quand même quelque chose qui est donc fondamentalement ancré dans notre corpus législatif, qui est de dire que il est normal et il est nécessaire que ce qui est fait par les administrations soit connu des administrés. C'est normal. Donc à partir de là, donc il y a d'autres éléments juridiques qui sont mis en place, en particulier la loi donc de juillet 1978, la loi dite CADA, et qui donne droit d'accès aux documents administratifs. Cette loi a été modifiée à la suite d'une directive de 2005, donc ce n'est plus seulement la possibilité pour tout un chacun d'avoir accès aux documents administratifs, c'est l'obligation pour les administrations de mettre à disposition ces éléments et de les mettre à disposition des personnes que ça intéresse. Voilà, donc il y a un renversement, législatif. Jusqu'en la directive de 2005, toute personne qui demandait quelque chose à l'administration devait lui donner ce qui était demandé. Donc c'était, je dirais, la demande, c'était à vous dans la salle de dire, ben voilà, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir telle information, si je reprends mes histoires d'arbres, de savoir combien il y a d'arbres au bord du canal du Midi. Bon, voilà. Donc nous on était tenus de vous donner cette information, mais on l'a donnée juste à la personne qui l'avait demandé. Aujourd'hui, avec cette modification, on n'a pas à attendre que quelqu'un nous demande d'avoir les arbres du canal du Midi, c'est on publie cette information, et puis non seulement la personne qui est intéressée, elle y a accès, celle qui initialement aurait pu le demander, mais tous les autres qui ne s'étaient pas forcément intéressés à ça, ils se disent, tiens, il y a ces histoires d'arbres, qu'est-ce que je pourrais en faire? Voilà, et c'est arrivé là dans le dernier concours qu'on a fait, on avait publié la liste de la flore sauvage qu'il y a dans Toulouse, donc la flore sauvage, hein, je vous le fais simple, c'est les mauvaises herbes qui poussent. Hein, parce que, voilà. Donc, et puis il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, c'est marrant ce jeu de données, il y a 700 plantes flore sauvage, qu'est-ce que je pourrais en faire de sympa? Et il en a fait une application qui permet eh bien, de se faire une petite promenade dans Toulouse et puis de repérer les petites plantes qui poussent, puis de se dire, tiens, c'est quoi ça? Et bah, de se dire que finalement, cette mauvaise herbe, eh bien, elle a un nom déjà, elle a une photo, elle a un stade d'évolution. Et puis, si on cherche un peu plus loin, eh bien, elle a des vertus diverses et variées qui peuvent être des vertus thérapeutiques. Donc voilà, donc c'est aussi cette information-là, ce renversement d'éléments. Autre support juridique qui arrive, donc c'est une loi sur le numérique qui est en projet, mais qui est même plus qu'en projet, puisqu'il y a une grande concertation actuellement. Hein, donc, le Conseil national du numérique qui a mis en place un site web spécifique qui s'appelle Contribuer. Et il y a des éléments qui sont mis en ligne et chacun, donc je vous encourage à aller sur ce site, mais peut contribuer et dire voilà, qu'est-ce qu'il aimerait que la loi demande, impose aux administrations pour la transformation numérique de la société. Et dans ce projet de loi, il y a évidemment le fait de rendre l'open data obligatoire. La question qui s'est posée, c'est de savoir à partir de quelle taille de collectivité on rendait ça obligatoire. C'est sûr qu'un village de 300 habitants, il aura beaucoup plus de mal qu'une ville comme Toulouse. Bon. Pour autant, il y en a qui le font, mais voilà. Alors pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça, là? Pourquoi ça nous a pris, cette affaire-là, en 2011, d'ouvrir nos données? C'était quand même quelque chose de tout à fait nouveau, même encore aujourd'hui, ça reste quelque chose de très jeune et de très nouveau. Il y avait donc un souhait de la collectivité en interne de dire, bon voilà, on voyait bien ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait en Angleterre. Il y avait déjà eu des projets internes très anciens à la métropole d'ouvrir les données. Et on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire là-dessus. On peut créer quelque chose de sympa et d'intéressant pour donner justement accès à ces données. Et puis, de façon concomitante, il y a une lettre ouverte donc, qui est partie, en particulier les signataires, c'était tout libre, hein, donc les organisateurs de la journée, pour demander à la collectivité donc, d'ouvrir ces données. Donc cette lettre ouverte, elle nous a été adressée le 4 avril 2011. Et du coup, entre la volonté interne et puis la demande externe, ça a fait une alchimie et tout ça, des volontés se sont croisées. Et puis, ça a permis de dire en interne, très vite, puisque les décisions ont été prises en 2 semaines, donc ce qui, dans une administration, c'est quand même super rapide, très vite, il a été dit, bon, OK, on y va. Bon, donc là, on était en avril, OK, on y va. D'accord, on le fait comment et pour quand? Et puis... vous connaissez les calendriers des événements toulousains. En octobre, il y a la novella. Donc on s'est dit, ben c'est simple, on l'ouvre pour la novella. Bon, OK, allons-y. Et donc là, ben, il a fallu avancer très vite, quoi. Néanmoins, avancer très vite, c'est une chose, mais on s'est dit, on va le faire, nous, métropole, communauté urbaine, mairie de Toulouse, mais pour autant, on est dans une communauté urbaine, il y a des communes membres de la communauté urbaine, on ne va pas le faire, nous, tout seuls, la ville-centre, et la métropole, on va le faire avec les communes membres de la communauté urbaine. Donc il y a eu cette volonté très vite d'associer les communes membres à ce portail. Donc le portage, ben, c'est un portage avec politique et administratif, hein, on va dire technicien au sens large. Donc porté dès le début par l'équipe politique en place, repris par la nouvelle équipe, puisque ça fait partie de ces éléments de campagne. Donc c'est la volonté politique là-dessus, je dirais, elle n'est pas partisane. C'est une volonté politique, mais qui est transverse, quelle que soit la couleur politique des équipes en place. Et ça se passe dans beaucoup de villes comme ça, beaucoup de collectivités. La couleur des équipes dirigeantes est indépendante de l'ouverture de la donnée ou pas, quoi. Néanmoins, donc là, il y a eu cette rencontre politique et administrative. Donc ça, c'était important, parce que de toute façon, sans portage politique, on ne fait pas, hein, tout simplement. C'est un travail qui est transverse au sein de la collectivité. Donc là, c'est ça aussi qui est intéressant dans le système, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est porté exclusivement par une direction. Et selon les collectivités, c'est porté différemment. Donc nos amis de Rennes, c'est porté par la communication. D'autres, c'est porté par le développement économique. Et il se trouve, nous, à Toulouse, que c'est porté par la DSI. Mais c'est comme ça, je veux dire, c'est fortuit. Mais pour autant, dans le groupe projet, eh bien, il y a ces trois directions, puisque les éléments importants, c'est l'informatique, fatalement, hein, il en faut toujours un petit peu, de la communication et du développement économique. Donc la démarche, la façon dont on l'a fait, alors c'est ça aussi qui est un petit peu original sur Toulouse, c'est que bon, le chef de projet, je ne vous cache pas, c'est moi, et moi je suis juriste, je ne suis absolument pas informaticienne, rien du tout, ni technicienne, je commence à comprendre quand mes collègues me parlent, mais bon, j'en suis pas quand même au point de mettre les doigts dans le code, hein, loin de là. En revanche, moi je suis juriste, donc on s'est intéressé à ce qu'il y avait dans le premier pré-projet de 2008, ce qui avait bloqué, c'était un problème de licence. Donc première chose qu'on a réglée, c'est la question de la licence de réutilisation des données. Parce que mettre des données à disposition, c'est bien, mais il faut qu'elles soient réutilisées. Et pour qu'elles soient réutilisées, il faut qu'il y ait une licence. Et là, on a été beaucoup aidés et titillés par nos amis de Tout Libre, en particulier Sébastien Dino, qui nous a beaucoup, avec lequel on a beaucoup interagi à l'époque, sur le choix de la licence. Et donc, on a choisi la licence ODBL. Je vous ferai l'explication sur la slide suivante, puisque c'était celle qui, à l'époque, était la plus ouverte possible. Depuis, il y en a une autre, puisque Etalab a rédigé une licence qui a été publiée quelques mois après l'ouverture de notre portail. Mais c'était ce qui est le plus ouvert et c'était vraiment ce qui nous intéressait. Il a fallu être rapide, puisqu'entre la prise de décision fin avril et puis l'ouverture le 22 octobre, faut faire vite, quoi. Donc là-dessus, on ne s'est pas posé trop de questions, on s'en laissait poser plutôt après. Donc on a avancé, on a fait un portail qui était ce qu'il est aujourd'hui. Si j'ai un petit peu le temps, je vous le montrerai. Et qui était destiné principalement aux réutilisateurs de type développeur. C'est vraiment un choix qui a été pris initialement, c'est de dire on ne va pas s'adresser au grand public, parce que pour faire ça, ça suppose des développements et une configuration de portail qu'on ne sait pas faire, qu'on ne maîtrisait pas. Donc on va d'abord s'intéresser aux gens qui vont réutiliser la donnée, donc c'est quelque chose qui est fait plus pour les geeks, mais c'est pas grave, c'est complètement assumé. Et puis, évidemment, comme il faut faire vite, il faut être pragmatique. Hein. Donc, les données, on les libère au fur et à mesure où on en a à la disposition. Donc, on a commencé avec 31 jeux de données. Alors, on n'a pas fait exprès, mais après, ça nous a beaucoup amusé. Donc, on s'est gardé ce nombre de jeux de données. Et puis, aujourd'hui, on en est à 172 jeux de données. Donc, on a quand même pas mal progressé. Alors, en 3 ans, certes, mais bon, c'est quand même pas mal. Et puis, on en a d'autres qu'on prépare. On a là une petite dizaine de jeux de données en préparation. On est en train de faire le prosélytisme en interne auprès des communes pour avoir toujours plus d'informations à mettre à disposition. Donc la licence. Donc voilà, la licence, rapidement, hein, pour ce qu'elle permet. Donc elle permet de partager les informations, de créer à partir de la base de données et d'adapter, modifier, construire à partir de la base de données. Elle autorise les réutilisations de type commercial. C'est pas interdit, c'est pas un gros mot. On peut réutiliser à des fins commerciales. En revanche, il y a quand même 3 contraintes qui sont mentionner la paternité, quand même dire les sources, partager aux conditions identiques et garder ouvert. Ça veut dire que derrière, vous ne pouvez pas vous réapproprier les informations et puis remettre une autre licence de type beaucoup plus fermé là-dessus. Il faut garder ouvert ces informations. Voilà, ça c'est des éléments. C'est des éléments que certains trouvent contraignants. Voilà, mais bon, à ce stade, la collectivité souhaite conserver ces contraintes justement de garder ouvert le côté viral de la licence pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Le risque qu'on voit à mettre une autre licence de type la licence ouverte qui est prévue par l'État, cette licence, elle permet de se réapproprier la paternité des données, justement de ne pas les garder ouvertes. Le risque qu'on voit, c'est qu'il y a un gros acteur qui arrive, qui monte un système certainement très bien parce que c'est un gros acteur, il a les moyens, mais qu'après, il tue toute l'innovation des petits qu'il pourrait y avoir autour. Et ça, c'est quelque chose que on ne souhaite pas. Donc l'implication d'un territoire, donc là c'est quand même quelque chose qui était assez nouveau, mais qui se duplique maintenant sur le reste des autres collectivités. Donc c'est un portail mutualisé avec les 37 communes de la communauté urbaine. Donc dans les communes qui publient leurs données, il y a des tout petits, il y a Seille, 2800 habitants, mais ils publient des données. Alors, des petits jeux de données, mais c'est pas grave, c'est très bien, ils sont dans la démarche, c'est l'essentiel. Un travail en commun avec la cantine, donc les voisins en face, là, donc c'est là où la plupart des événements ont lieu. On associe des partenaires, là aussi c'est très opportuniste, hein, je veux dire, les associations avec des partenaires, bon avec ICO on l'a fait rapidement dès le départ, mais il y a La Poste aussi dans les partenaires, il y a Toulouse Ambition 21, il y en aura d'autres sûrement, on discute avec certaines entreprises qui sont intéressées mais qui ont des systèmes de décision qui sont parfois un peu plus compliqués. Bon voilà, mais c'est là-dessus, c'est quelque chose qui a vocation à s'ouvrir. L'Ardésie, donc à l'époque, enfin Feu Ardésie, hein, nous avait beaucoup aidé dans l'émission d'information auprès des communes membres. On avait fait des sessions auprès des maires, auprès des DGS, auprès des techniciens pour expliquer ce que c'était, pour qu'eux aussi se rentrent là-dedans. Et on s'est impliqué très fortement dans le mouvement Open Data France dès les balbutiements. Donc le périmètre, donc je vous le fais. Un peu de répétition par rapport à ce que j'ai dit. Donc c'est la communauté urbaine, la ville de Toulouse, la ville de Balma, donc qui a été dès le départ dans le dispositif, et puis d'autres villes. Donc, vous voyez Gratin-Tours, Colomiers, Saint-Jory, Seille, Aucamville, Blagnac. Toutes ces communes ont adopté des délibérations pour l'ouverture des données. Et elles sont actuellement en train de travailler justement à l'ouverture, on va dire concrète, à publication des jeux de données. Et ça, c'est quelque chose qui va s'accentuer sur les mois à venir, puisqu'il est prévu que les résultats des élections départementales du mois de mars soient publiés sur l'Open Data en cours de soirée électorale, au fur et à mesure qu'on aura les éléments définitifs. Il n'y aura pas les éléments provisoires, ça, faut l'oublier. En revanche, les éléments, dès lors qu'on aura les PV validés, ceux-là, ils seront publiés en cours de soirée. Et comme on est concentrateur pour un certain nombre de communes, on va en profiter pour justement... étendre le système à ces communes-là. Notre partenaire initial, donc Tisséo, donc eux, ils sont arrivés avec nous dans le groupe projet avant même qu'on ait ouvert le portail, puisque quand même parmi les données qui sont les plus réutilisées et qui ont une valeur ajoutée la plus forte, c'est les données de transport, donc les données, particulièrement les données en temps réel, qui sont très très réutilisées. Et puis donc les autres partenaires, donc comme je vous les ai déjà cités, hein, La Poste, Jean-Claude Decaux, donc pour tout ce qui est les vélos Toulouse. L'Office du tourisme aussi, qui publie l'agenda des événements culturels, et le club d'entreprise Toulouse Ambition 21. Alors, quel type de données? Je vous ai donné des exemples au départ, mais là, je vais surtout dire ce qu'on ne publie pas. Parce qu'on publie des effectifs, des positions géographiques, des photos aériennes, enfin bon, tout un tas de choses, des longueurs, des quantités, tout ce qui décrit le territoire et son activité. En revanche, on ne publie rien qui touche les personnes physiques, de près ou de loin. Donc là, il y a parfois cette crainte qui se fait, ou des sénateurs qui montent au créneau et qui ont fait des rapports. Un sénateur Gorse qui a fait un rapport là-dessus en disant « l'open data, attention, c'est les données sur les personnes qui sont mises en pâture à tout le monde ». Non, on ne publie rien qui concerne une personne physique. À tel point qu'on a un jeu de données qui est actuellement encore dans mon tiroir, mais quasiment... c'est presque ça, sur les abonnés à la médiathèque, où on a gommé évidemment les noms, les numéros de rue, mais on sait que dans la rue Riquet, il y a, je dis n'importe quoi, 3 abonnés. Bon, et bien ça, tant qu'on n'est pas en capacité de s'assurer qu'on ne peut pas remonter jusqu'à la personne, ce jeu de données, on ne publiera pas. Parce qu'il y a cette crainte de dire on peut remonter éventuellement sur un individu, donc tant qu'on n'a pas de certitude qu'on ne peut pas le faire, ces jeux de données, on ne les publiera pas. Les données qui relèvent de la sécurité, bien sûr. Donc là, l'exemple le plus typique, c'est les conduites de gaz, les conduites d'eau. Ça, on ne publiera pas le schéma des conduites d'eau potable de la ville. Je vous laisse imaginer pourquoi, mais ça, on ne le fera pas. Et puis, là, ça concerne plus les entreprises, c'est tout ce qui touche au secret en matière industrielle et commerciale. Ça, ça on ne publiera pas, puisque c'est d'abord c'est exclu par la loi CADA, et puis ça peut avoir des implications après sur les entreprises que là on ne maîtrise pas, donc on ne veut pas les mettre en péril. Alors nos succès, déjà on est content d'avoir réussi à l'ouvrir en 6 mois, notre portail, c'était quand même pas évident au départ. Beaucoup d'échanges avec les réutilisateurs. Donc là, on met en place des rencontres tous les 2 mois à peu près avec des réutilisateurs, donc vraiment pour échanger. Donc nos 172 jeux de données qui sont ouverts, donc là les plus récents, ils sont, je dirais, d'un point de vue économique, ils ne sont pas forcément hyper exploitables. En revanche, d'un point de vue historique, ils sont sympas. On a par exemple mis la liste de toutes les délibérations du conseil municipal entre 1909 et 1969. Voilà. Bon, donc ça c'est rigolo. C'est rigolo d'aller voir. Ben, après il y a des années un peu charnières. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme délibération en 1918? Ah, ça c'est marrant. Qu'est-ce qui s'est passé en 68? Ah, ben, 68, il n'y a pas eu de conseil municipal déjà entre le mois de mars et le mois de septembre. Bon, déjà, ça... Voilà, après en 44, voilà, il y a des années un peu marrantes. Moi je me suis amusée à regarder ça et de voir ce qui se passe. Et ça donne vraiment le reflet de la ville. Et après le texte de la délibération, ben, vous pouvez avoir accès en allant aux archives. Hein, puisque là ce sont les archives municipales qui nous ont ouvert cette... Ce jeu de données. Donc voilà, donc ça c'est un des éléments. Là on est en train de préparer des publications sur des éléments liés aux cuisines centrales. Donc ça va se faire. Donc, puisque typiquement c'est ça, hein, c'est l'échange avec le réutilisateur. C'est le soir de la remise des prix du concours il y a 3 semaines, devant la cantine en partant, il y a quelqu'un qui me dit « Ah tiens Sandrine, est-ce qu'on pourrait avoir les menus des cantines ?» Oui. Bon, pourquoi pas? Et ils commencent à expliquer qu'ils ont un projet d'application sur la restauration collective et puis de pouvoir savoir des éléments nutritionnels, etc. Bon, pourquoi pas? Et pour ça, il faut les menus des cantines. Bon, ben, d'accord. Donc, ni une ni deux, on a pris rendez-vous avec les cuisines centrales et puis on va aller les voir d'ici 2 semaines pour voir ce qu'ils peuvent nous publier. Mais là-dessus, c'est l'échange avec la communauté et les réutilisateurs qui permet de savoir ce dont les gens auraient besoin. Parce que moi, typiquement, les menus des cantines, sachant qu'en plus ils sont publiés sur le site Toulouse.fr, je n'avais pas imaginé une seconde que ça pourrait intéresser quelqu'un de l'avoir en open data. Eh bien si. Donc voilà. Alors là où c'est difficile, parce que quand même tout n'est pas toujours très rose, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est un travail de fourmi. C'est vraiment un travail de fourmi d'aller chercher les données auprès des services... Le collègue de la ville de Paris qui fait le même boulot que moi et qui est dans une configuration de ville finalement pas tellement plus grosse que nous, il dit bon, les données on va les chercher avec les dents, mais c'est vraiment ça quoi, il faut y aller un à un, les convaincre, etc. Même si c'est quand même de plus en plus facile, ça c'est je dirais qu'on passe de la on est en train de basculer de trucs super compliqués ah, ben justement, cette appropriation par l'ensemble des agents de la collectivité de se dire que oui, eh bien, il y a de la donnée à publier. Après, ils peuvent avoir des craintes, eux, hein, ça fait partie des difficultés. La crainte de dire, mais mes données, elles ne sont pas forcément super nickel, donc bon, ça va poser un problème. Mais bon, ça fait partie effectivement des éléments de un travail d'explication très, très long à faire auprès des opérationnels pour qu'ils acceptent de publier leurs données, surtout qu'ils acceptent de publier leurs données telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, c'est ça, ils disent, mais on va voir ce qui se passe. Et si ce qui se passe, c'est pas super, ça va se voir. Et à la limite, je dirais que c'est pas forcément très très grave. Quoi. Voilà. Certains services qui sont absolument pas habitués à partager leurs données, mais là aussi, c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est ce basculement hein, du côté « je suis propriétaire » à « je suis producteur ». Là, on est vraiment en plein dans cette passerelle. On passe vraiment de cette optique en disant voilà, « c'est à moi, c'est mes données, je les fais » et tout. Et puis surtout que personne d'autre n'en ait connaissance, mais personne d'autre, y compris personne d'autre en interne. Et s'il y avait ça, et là, on est en train de basculer, de dire ben, « ça intéresse d'abord mes collègues, parce que eux aussi, c'est des éléments qui sont importants pour eux, et puis ben, ça peut intéresser tout un chacun. Voilà. » Et puis, eh ben, l'identification des jeux de données qui sont publiables, qui sont susceptibles d'intéresser les réutilisateurs. Donc c'est vrai que là-dessus, moi je n'ai qu'un mot d'ordre, c'est de vous encourager à nous contacter pour nous dire « moi j'aimerais bien avoir tel truc, typiquement les menus des cantines ». Voilà. Parce que ben, y a bien des fois, j'imagine pas, quoi, tout simplement. Donc ce qu'on a fait, on a fait pas mal de travail d'animation, donc des concours de réutilisation. Donc on en fait un par an, donc à la date anniversaire de l'ouverture du portail, donc qui était en octobre 2011. Donc le premier en 2012, le Grand Prix, c'était Covia. Donc là, c'est une application de cette thématique transport avec des éléments en temps réel, y compris du covoiturage en temps réel. La deuxième année, donc à l'Endive, donc là c'est la possibilité pour les personnes de pouvoir, via une application dans laquelle on a renseigné nos goûts, bah, c'est de savoir que ce soir quel est le concert qui m'intéresse, mais qui n'est pas forcément celui qui se passera au Zénith ou au Bikini, parce que là il y a des grands afficheurs qui ont fait leur pub, mais celui qui se passera dans le petit café du coin, et pourtant ça fait partie de mes goûts, et comme ça me permet de savoir ce qui se passe. Et puis, le dernier donc, de cette année, c'est Global Bike ou Global Bikers. Ils sont pas encore formels sur leur nom. Donc là, leur sujet, c'est le cyclotourisme. C'est permettre aux personnes qui sont adeptes de cyclotourisme d'avoir des trajets. Donc, ils commencent sur Toulouse, Midi-Pyrénées, mais là, ils ont pour ambition de s'étendre, bien sûr, des trajets en vélo. Donc là, pour l'instant, ben, c'est, par exemple, si je vais aller de Toulouse à 7 en passant par le canal du Midi, qu'est-ce qui se passe, où sont les écluses, où il y a des restos, où est-ce que je peux dormir, bon, voilà, etc. Et puis, donc, les rencontres dont je parlais brièvement, donc, c'est ce qu'on appelle des 6 à 8. Bon, c'est pas très compliqué, hein, ça se passe de 18h à 20h à la cantine sur une thématique, et c'est de la discussion ouverte. Parce que bah là, voilà, je fais la conférence, d'ici 5 minutes, je vais m'arrêter et puis on va échanger. Et souvent, le plus intéressant, c'est ce temps d'échange. Eh bien, le 6 à 8, on a gardé que le temps d'échange. Voilà, le temps de conférence, il est réduit à sa plus stricte expression, c'est de 30 secondes à 2 minutes. Voilà. Et après, pendant 2 heures, on est là, on discute pour échanger. C'est ce principe-là, quoi. Alors. L'avenir, donc ce qu'on prépare, toujours hein, l'ouverture sur les communes dont je vous ai parlé, les diverses données supplémentaires, et puis on va refondre le portail donc, en 2015 avec trois cibles qui sont faciliter la réutilisation des données, parce que je sais qu'il y a des réutilisateurs qui sont là, et ce n'est pas forcément toujours facile, puisque à chaque fois qu'on télécharge un jeu de données, il faut accepter la licence de réutilisation. Donc certains sont plus malins et se sont fait des scripts pour que ça l'accepte, mais pour autant c'est quand même pas très facile. Donc là l'idée c'est vraiment de faciliter le téléchargement des données avec en mettant en place des API sur chaque jeu de données pour que ça puisse être réutilisable et réinjectable dans des applications facilement. Là aussi maintenant on s'apprête à cibler aussi le grand public, parce qu'à ce jour le portail. Moi, j'ai quelqu'un, mon mari, hein, pour ne pas le citer, quand je lui cherche une information là-dessus, il me dit « mais c'est quoi ton truc d'informaticien ? Moi, ça ne me parle pas, c'est incompréhensible. » Et puis, heureusement que tu me le traduis, parce que moi, je ne serais jamais allé chercher là-dessus. Pourtant, il a eu l'info qui l'intéressait, hein, c'est-à-dire l'ouverture du bureau de poste le samedi matin à côté de la piscine des enfants. Voilà. Mais il a fallu un peu creuser pour l'avoir. Donc voilà, donc là, la cible, c'est s'adresser aussi au grand public pour qu'il puisse avoir accès à ces informations de façon plus facile. Et puis, faciliter la publication des données par les partenaires, parce que là, bon, c'est un petit peu compliqué, quoi. Alors, rapidement, Open Data France, parce que vous sachiez un petit peu comme de ce que c'est. Donc, au départ, c'était un collectif informel de techniciens. On s'est rencontrés à l'initiative de Claire Gallon, de l'association Libertique, qui était venue ici aussi parler d'Open Data il y a 3-4 ans. Et elle nous voyait, toutes les collectivités, en train de commencer à bosser dans nos coins respectifs, et donc ben, on s'est réunis tous ensemble en février 2012. Voilà, vraiment entre techniciens, et on s'est tous rendu compte que ben, ceux qui faisaient de l'open data, ils faisaient tout ça dans leur collectivité, en plus du reste, en plus de leurs autres missions. Donc les premières pistes, le premier travail qui s'est fait, ben, ça a été en grosso modo de se partager le boulot, c'est-à-dire toi tu es juriste, tu vas t'occuper des licences, toi tu es plus sur la com, tu vas t'occuper de la com, voilà, etc. Toi tu es bon en... tout ce qui concerne les formats de données, donc on va se faire un catalogue selon un format bien particulier. Donc voilà. Donc ça a été des rencontres au départ pendant un an, vraiment des rencontres informelles, mais qui étaient quand même assez riches. Ensuite, avec la nomination d'Henri Verdier à la tête d'Etalab, donc on l'a rencontré, mais vraiment on lui a sauté dessus dès qu'il arrivait, parce que le lendemain de son arrivée à Etalab, on était dans son bureau pour discuter avec lui, pour dire voilà. l'État fait de l'open data, les collectivités font de l'open data, mais on ne peut pas faire ça chacun dans notre coin, c'est quelque chose qui est global, il faut qu'on avance ensemble. Et à l'issue de la réunion, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se structure, que le collectif informel, ce n'était pas suffisant, ça ne pouvait plus être suffisant. Donc on s'est structuré donc en une association loi 1901, classique, quoi, et l'Assemblée générale constitutive, elle a eu lieu donc, l'année dernière à Toulouse, ici, et c'était donc le président étant le maire de Toulouse. Donc 18 collectivités fondatrices. Je ne vous passe pas les vidéos, mais de toute façon, vous aurez le PowerPoint, vous pourrez les récupérer après, hein, parce que sinon, je ne tiendrai pas le timing. Donc les membres fondateurs d'Open Data France, donc Toulouse, donc ville et métropole, Nantes, Rennes, Montpellier, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil général de Saône-et-Loire, le Conseil général de Gironde, le Conseil général de Loire-Atlantique, la ville de Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux, le Grand Lyon, la ville de Digne-les-Bains, la commune de Broca, qui est une toute petite commune, hein, ils sont 800 habitants, donc c'est le petit poussé, mais néanmoins ils sont super actifs, la ville de Balma et la ville de Paris. Voilà. Et en membres associés, donc Liberty, Clafing, Etalab, bien sûr, et la MGVF et les interconnectés. Donc, il y a une carte que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai oublié de me mettre en Wi-Fi. Donc, il y a une carte sur OpenStreetMap qui reprend en fait toutes les collectivités qui font de l'open data. Donc, vous pourrez les regarder. Donc Open Data France, donc évidemment les dernières élections municipales ont pas mal bousculé les représentations des villes. Donc le président c'est Bertrand Serp, donc qui est l'élu de Toulouse au numérique, aussi bien sur la ville de Toulouse que sur la communauté urbaine de Toulouse Métropole. Donc voilà, c'est le président d'Open Data France. Dans les vice-présidents, donc Rennes Métropole, la commune de Broca, bien sûr, puisque ça ne s'adresse pas que aux grosses machines, hein, ça s'adresse aussi aux petites collectivités. Conseil général de Alpes-Côte d'Azur, la ville de Nantes, communauté urbaine de Bordeaux, et puis la trésorière, donc c'est Madame Kayser qui est le conseil général de Gironde, et la secrétaire, Madame Kerangeven, de la mairie de Montpellier. Donc voilà, ça c'est les instances du conseil d'administration d'Open Data France. Donc nos priorités pour 2015, déjà c'est développer des outils pratiques à destination des collectivités, puisque à ce jour il y a à peu près une cinquantaine de collectivités qui sont avec lesquels on travaille, mais de façon un peu informelle, ils sont en cours d'adhésion, etc., pour leur dire, pour les aider tout simplement, pour qu'ils ne reprennent pas les galères qu'on a tous connues, si on peut leur faciliter la vie, leur donner des modèles de délibération, bien sûr, voir quelles licences de réutilisation mettre en place, etc. Donc voilà, c'est vraiment aider les collectivités qui veulent se lancer dans l'open data pour qu'elles puissent le faire de façon le plus efficace possible. On veut aussi améliorer le développement de l'open data en France, donc ça passe évidemment par un système de diagnostic et évaluation. Consolider notre rôle et notre notoriété donc dans les cercles de décision nationaux, ça c'est, on pense que c'est quelque chose qui est important et c'est vraiment ça qui a fait qu'on est passé d'un collectif informel à une association plus structurée. C'est pouvoir porter la voix à des collectivités qui ouvrent leurs données auprès notamment du gouvernement et de l'État lorsqu'il y a tous les projets de nouvelles réglementations pour qu'il n'y ait pas simplement quelque chose qui soit imaginé depuis Paris de façon très centralisée, mais que le concret, ce qui se passe dans les territoires, puisse être pris en compte. Et puis, nous aider à nous développer, parce que là, c'est encore plus dur que l'open data, on va dire simple, c'est que les gens qui s'occupent de l'association, c'est ceux qui font de l'open data dans leur collectivité, mais alors, en plus de leur mission initiale, en plus de l'open data de la collectivité, c'est le petit bout pour Open Data France. Donc c'est vrai qu'on avance très très peu vite. Donc là, c'est aussi une priorité, c'est d'avancer pour que nos actions puissent se faire. Voilà. Et j'arrive juste. Alors. Donc je serais ravie de répondre à vos questions.
Merci. Oui, je voudrais comprendre entre données privées, justement, vous parliez tout à l'heure des naissances et des décès et autres, et donc de dire qu'il ne faut pas les publier les choses privées. Parce que, bon, je vous donne un exemple, il fleurit au niveau français, international, des généalogistes qui font les recherches systématiquement pour gagner de l'argent, en fait, auprès des notaires. Et donc, j'ai des exemples précis, hein, si vous voulez, là-dessus. Et donc, ils monnayent énormément donc, ces données qu'ils récupèrent. Et qu'est-ce que vous en pensez?
Alors là, j'avoue que sur les généalogistes, je ne pense pas grand-chose, hein, quand même. Non, mais c'est un modèle que je ne connais pas. Donc là-dessus, je suis un peu embêtée pour vous répondre. C'est vrai que sur l'open data, l'idée, c'est vraiment de ne pas donner d'informations privées, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a ces associations ou ces sociétés, hein, de généalogistes qui surfent sur l'intérêt que les gens ont à remonter sur leur génération antérieure. Mais là-dessus, c'est vrai que je suis embêtée parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas, quoi.
Donc, je rebondis un petit peu là-dessus. Oui. Vous avez parlé que ça sert énormément pour un certain nombre d'administrations. Et donc, je cite là-dedans, donc, par exemple, les notaires qui sont privés et qui ont un rôle de service public. Et que les choses sont loin d'être claires dans ce genre d'opération, si vous voulez.
Ah oui, tout à fait. Mais pour l'instant, vous savez, c'est quand même quelque chose de très nouveau, hein, l'open data. Même si ça fait déjà 3 ans, ça ne fait quand même que 3 ans. Donc il y a tout un tas de questions pour lesquelles on n'est absolument pas aujourd'hui, on n'a pas encore abordé, on n'est pas armé pour les aborder, hein, là-dessus. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait rebondir dessus.
Je vais rebondir là-dessus pour préciser ce dont il voulait parler à propos des généalogistes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui publient les données qu'ils ont réussi à récupérer à divers endroits et autres, puis qui sont récupérées par ces personnes-là, qui les revendent très très cher en faisant croire que c'est eux qui l'ont fait.
Ah ouais.
Voilà. Je voulais vous demander, moi par contre, comme ça n'est au début, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une uniformisation entre les différents acteurs de l'open data au niveau des accès aux données, de la structuration elle-même des données? J'en prends par exemple les données des archives départementales où chacun a fait son truc dans son coin, c'est totalement incompatible, de qualité parfois totalement inégale. Et voilà, c'était ma question.
Alors, il n'est pas prévu d'unification parce que c'est aussi un élément, je veux dire, ça porte aussi d'une politique d'une collectivité. En revanche, ce qui est prévu et ce qui se fait déjà, c'est que le portail data.gouv moissonne l'ensemble des données qui sont publiées par les différentes collectivités. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas elles sont pas publiées par data.gouv, mais en allant sur le catalogue de data.gouv, vous pouvez avoir accès à ce qui s'est publié sur une thématique, soit à Toulouse, soit à Rennes, soit à Montpellier, etc. Donc voilà, c'est vraiment un moissonnage de catalogue. Et après, donc ça, c'est quelque chose qui est fait, parce qu'en fait, on ne va pas stocker 2 fois la même information à 2 endroits différents. C'est tout simple. Voilà. Et c'est... Oui, c'est ça, d'agrégateur, si vous voulez. Mais voilà, les données sont sur un serveur, mais ne seront pas sur 2 serveurs. Je vous fais simple, mais c'est l'idée, quoi. Et après, sur l'uniformisation des types de données, alors ça se fera peut-être, mais là, pas tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, première chose, quand même, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un catalogue des catalogues. C'est-à-dire qu'on a des règles de publication des catalogues de données, donc ce qu'on appelle le dataset des datasets, pour dire voilà. Si vous avez besoin d'une donnée quelque part, vous pouvez télécharger tous les catalogues et puis ils sont faits tous pareils. Donc voilà, ça c'est le seul boulot grosso modo qu'on a réussi à faire. Alors pourquoi on ne va pas encore aller, en tout cas pas tout de suite, sur l'uniformisation des publications? Parce que ce que chacun a vendu en interne dans sa collectivité, c'est de dire l'open data, c'est on publie ce qu'on a sous la forme dans laquelle on l'a. Il n'y aura pas de boulot complémentaire à faire sur les données pour les modifier avant de les publier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a dit aux producteurs dans les services, dans les collectivités, c'est-à-dire on publie ce qu'on a sous la forme dans laquelle on l'a. Voilà. Néanmoins, on sait bien qu'à terme, c'est une position qui ne pourra pas être tenue parce qu'il y a une vraie utilité à ce qu'elle soit à peu près structurée de la même façon. Mais ça suppose d'abord qu'il faut qu'on s'entende entre collectivités, entre administrations, sur la forme sur laquelle on va la publier. Donc là, il y a un énorme travail de formalisation. Donc ça, c'est long. Et puis après, qu'on remonte sur les outils métiers, les outils métiers étant chacun évidemment différent d'une administration, d'une collectivité à une autre. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça que je vous dis que ça se fera peut-être, mais pas tout de suite, quoi, parce que ça suppose là, pour le coup, un gros travail, et à ce jour, on n'est absolument pas équipé pour le faire. Et puis il y en avait une autre aussi.
Moi j'avais une rapide question, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que dans une commune de 300 habitants, c'est plus difficile de publier des données que dans une grosse agglomération ? Si comme à Toulouse, il y a une ou deux personnes motivées qui ont quelques compétences, j'ai un peu du mal à voir où est la difficulté pour eux de le faire par rapport à une grosse commune.
Alors bah déjà, ils n'ont pas une ou deux personnes dans une commune de 300 habitants. Hein. Souvent, une commune de 300 habitants, non, bah, après une petite commune, hein, on va dire, ils ont, j'en connais quelques-unes, ils ont une quinzaine d'élus. Et puis, ils ont une secrétaire de mairie qui vient 2 jours par semaine, grosso modo. Alors la pauvre, déjà qu'il faut qu'elle fasse le budget, les marchés publics, etc. etc. Franchement, je ne m'imagine pas trop qu'elles sont en capacité de le faire. La commune de Broca, donc 800 habitants, ben, c'est l'élu qui se trouve être informaticien, qui est aussi complètement dans le monde du libre là-dessus, donc il fait ce boulot-là. C'est lui qui le fait, mais c'est assez rare. Et puis après, l'autre chose, c'est que moi, je vois les communes de la communauté urbaine, par exemple Mons, ils sont, je crois, 200 habitants, oui, ils sont tout petits. Ils ont deux récup verts. Mais pour savoir, avant de publier la donnée du récup vert, eh ben, on a sorti la carte. Et puis après, le stabilo, puis on dit, ben, le récup vert, il y en a un là, un là. Mais le truc, la donnée, elle n'existe pas au départ. Vous voyez, elle n'est pas structurée. Donc avant qu'on la publie, il faut déjà qu'elle soit informatisée. Bon, ça, c'est un exemple, parce que ces deux récup verts, c'est facile, mais on peut le multiplier sur tout un tas de choses. C'est pour ça que je dis que les petites collectivités, ça sera beaucoup plus dur pour elles, quoi. Mais on n'est pas à l'abri de bonnes surprises qui est, alors en l'occurrence, ce serait plutôt des élus qui aient envie de le faire, qui aient les compétences et qui s'emparent du truc. Ça, voilà. Mais c'est plus dur que dans une collectivité de plus grosse taille où on est plus nombreux et où il y a bien quelqu'un qui trouvera un peu de temps pour faire ce genre de choses. Il y avait ça fait de moments qu'il attend.
Vraiment une dernière question rapide. Faut permettre le temps au prochain conférencier de s'installer. Vous auriez le temps de poser d'autres questions pendant la pause.
Bonjour, je suis membre de Tout Libre et membre d'OpenStreetMap France, donc je vous félicite pour votre travail. J'ai co-signé aussi la lettre verte que vous avez reçue en 2011, donc je suis très content du boulot qui est fait à Toulouse. Votre API est tout à fait attendu. Moi, j'ai une question sur un peu pareil sur la relation avec les communautés de communes ou les mairies qui ne sont pas encore lancées dans l'open data. Vous dites que vous allez mettre des outils à disposition. Qu'est-ce que ça va être? Comment est-ce que vous les accompagnez dans ce processus?
Alors déjà, l'accompagnement, il se fait de deux façons. Donc les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, c'est des modèles de délibération, c'est aussi des échanges de cahiers des charges, hein. C'est très, très basique, mais quand il s'agit de faire un appel d'offres pour avoir monté un portail, on passe par une phase de marché public, donc c'est aussi... Un modèle, c'est pas vraiment un modèle, mais c'est on va dire une base de cahier des charges sur lesquelles ils peuvent commencer à bosser pour voir ce qu'eux ils souhaitent. Et puis il y a aussi un élément qui est important, c'est des temps d'explication auprès des élus. Parce qu'en fait, des élus ou des décideurs de la collectivité, de la commune, parce que souvent il y a une ou deux personnes qui sont convaincues, mais qui ne sont pas des échelons de décision suffisants. Donc il faut aller convaincre les élus. Donc là, on a par exemple, il y a une, je crois que c'est une association, je ne sais pas trop, enfin bon, une personne qui nous a contactés en disant, voilà, début décembre, il y a une réunion à Caen avec une vingtaine de communes. Est-ce que quelqu'un pourrait venir ou faire un peu une explication par visio pour expliquer, pour convaincre les élus qui sont là, les décideurs des communes qui sont là pour qu'eux aussi partent dans cette démarche-là. Donc c'est aussi ça, cette aide, c'est d'expliquer ce que c'est que l'open data, et puis pour rassurer aussi beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de décideurs qui ont très peur. Mais en fait, on leur dit, mais il ne se passera rien de grave, hein, vous savez, c'est pas parce qu'on va ouvrir les données que tout d'un coup, ça va moins bien se passer, vous, dans votre collectivité, que les systèmes de décision vont être complètement bouleversés, quoi que ce soit. Voilà, c'est aussi beaucoup pour rassurer sur ce qui peut se passer à la suite de l'ouverture de ces données, quoi. Donc voilà, c'est, à ce stade, l'aide, elle est de ce niveau-là.
Merci beaucoup, Madame Matton. C'est un sujet très intéressant.